Et Didier Van de Kovelaert, on va donc parler à présent de Cette vie absolue, votre nouveau roman aux éditions Albin Michel. Est-ce qu'on présente Didier Van de Kovelaert ? Non, on ne le présente pas, on va gagner du temps comme ça. L'un des romanciers les plus connus, les plus lus, le prix de Lucas, le prix Goncourt. Ah, vous aviez eu le prix Veolia aussi du livre Environnement. Et là, eh bien, c'est un de vos personnages qu'on retrouve. Mais évidemment, si on n'a pas lu le premier il y a 25 ans ?
Oui, mais on peut tout à fait...
Exactement, penser... puisque moi, en d'ailleurs, je me suis rendu compte que je ne l'avais point lu.
Et beaucoup de gens, comme La vie interdite est ressortie en poche à l'occasion, donc beaucoup de gens, là, qui surtout des jeunes lecteurs qui n'avaient pas lu, se sont jetés dedans. Donc on peut tout à fait lire cette histoire à l'envers, puisque, bon, vous savez, là, quand on est dans l'au-delà, le temps est quand même assez relatif.
Oui, alors il y a des notions du temps relatif. On apprend plein de choses grâce à cette arrivée dans l'au-delà. Alors parfois, il faut lire tout un livre pour savoir que le héros est mort. Là, au moins, comme ça, on est tranquille. Il est mort dès le début.
La première phrase, c'est une sensation déroutante de se retrouver parmi les siens lorsqu'on n'est plus de leur monde.
Voilà.
Donc, voilà.
Et alors, il n'est même pas là à son enterrement, mais il avait déjà vu son enterrement. Il est là à son exhumation. Pourquoi est-ce qu'on exhume ce pauvre Jacques ?
Eh ben pour une des choses les plus brutales qui soit, une recherche de paternité. Et voilà, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on repose en paix depuis 25 ans et qu'on est tout à coup réaccordé aux vibrations terrestres parce que la famille est là, là votre veuve, votre fils, votre ancienne maîtresse, l'ancien gendarme qui a écrit un roman sur vous après avoir enquêté sur les causes de votre mort. Et puis, il y a un personnage tout à fait nouveau qui est la jeune étudiante qui espère désespérément être la fille biologique de Jacques, comme le lui a dit sa mère, avant de suicider. Mourir. Pourquoi s'est suicidé ? Parce qu'on a découvert que le père de Morgane, le père officiel, est un anesthésiste qui, en fait, a violé une trentaine de fillettes en sortie de bloc opératoire, et arrestation à la une du Dauphiné libéré. Et on imagine, évidemment, le séisme dans la famille, le choc pour cette fille, dont la vie va être, évidemment, brisée de l'extérieur et de l'intérieur, parce que le regard des autres, évidemment... son rapport aux hommes, l'idée
son
qu'on a
père,
en soi les gènes d'un monstre. Et c'est vrai qu'on parle jamais, enfin, très rarement, de cette catégorie-là de victime d'un prédateur sexuel. Et en fait, sa mère lui dit « Écoute, ton vrai père, c'est pas lui, c'est mon ami d'enfance, Jacques Lormeau. Ça ne s'est passé qu'une fois entre nous. » Tu n'es pas une enfant de l'amour, tu es une enfant de l'amitié.
De l'amitié.
Et elle lui dit ça, et elle se suicide, elle se jette sous le TGV de 19h13, parce qu'elle, non seulement elle ne peut pas, elle, survivre avec cette révélation, ce regard des autres sur elle, et en même temps, elle sent qu'elle ne pourra pas tenir ce mensonge d'amour qu'elle a fait à sa fille, car Jacques, qui évidemment est présent à l'exhumation, il sait très bien qu'il n'a jamais eu de relation sexuelle avec son ami d'enfance, et que simplement, pour sauver moralement, affectivement, physiquement, Morgane, il faudrait qu'il soit
qu'elle
son père.
Sa fille.
Et que va-t-il se passer ? S'il y avait eu le bénéfice du doute, ça aurait pu marcher. Sauf que, il se trouve que c'était la famille ennemie, la famille de Morgane.
Alors, ce qui est génial aussi, effectivement, on est dans une ambiance entre la quincaillerie et la pâtisserie. Au
ça
milieu
se passe
d'un
à Aix-les-Bains,
voilà.
les grenouillages de la petite ville de province où les deux familles notables, la très grosse quincaillerie Lormeau et la pâtisserie du Moncel, qui est un lieu historique où se servait la reine Victoria ses cures thermales. Et en fait, la pâtissière, la grand-mère de Morgane, avait une telle arrogance, une telle... C'est elle, comme je la décris, comme un rouleau à pâtisserie qui a laminé de son mépris tous les vivants à sa portée,
elle
y compris ses enfants.
Elle a toute sa famille.
Voilà. Et là, lorsque tout à coup, elle apprend que ses ennemis qui finalement ont réussi à racheter parce qu'elle a tellement cassé ses enfants qu'ils ont détourné l'argent des caisses et ça finirait en liquidation judiciaire et sa pâtisserie a été rachetée par la quincaillerie et c'est devenu espace tondeuse. Donc, il y a la haine motrice de cette vieille dame qui tout à coup lance, lorsqu'elle apprend ce qu'a avoué sa fille, et elle convainc la petite fille de lancer la procédure d'exhumation. Or, vous savez qu'il n'est plus possible en France depuis l'exhumation litigieuse d'Yves
Montand,
de déterrer quelqu'un pour une recherche de paternité, sauf si de son vivant, il a donné son accord pour cela. Et c'est là que Fabienne, la veuve de Jacques, va commettre un second mensonge d'amour. Elle va imiter l'écriture de Jacques.
Elle savait très bien que son mari allait voir ailleurs, on va dire ça comme ça.
Oui, mais elle... Bon. Elle sait qu'il est mort dans les bras de sa maîtresse et tout, et elle se dit, elle est tellement émue par la détresse de cette jeune femme, qu'elle imite l'écriture de Jacques, en recopiant, elle a ressorti une lettre d'amour ancienne qu'il lui avait envoyée, et en fait, c'est cet acte sacrificiel d'amour, puisque quand même, ça veut dire...
Oui, parce qu'elle pourrait partager l'héritage,
autoriser. Elle pense etc. que c'est la vérité, ouais. Sauf que... Et Jacques, c'est ça qu'il a ramené dans les vibrations terrestres, cet acte d'amour sacrificiel et d'empathie avec sa veuve qui imite son écriture. Sauf que lui, évidemment, il sait que l'exhumation va prouver que par l'ADN, qu'il n'y a aucun marqueur commun avec la petite Morgane. Sauf que, troisième mensonge d'amour, c'est le fils de Jacques et Fabienne, Lucien, qui est un grand hacker, un super geek. Vous savez, comme les perceurs de coffre-fort qui se reconvertissent en serruriers, qui sont évidemment les meilleurs, lui a créé une boîte de sécurité informatique. Et lui, lorsque il a la conviction que tout ça est faux, au cas où, il intercepte par ce qui s'appelle l'impersonation attack, c'est-à-dire usurpation d'identité. Il envoie un mail au labo d'analyse à partir d'une fausse adresse du juge aux affaires familiales. Et inversement, de manière à être au milieu, il reçoit, c'est lui qui va recevoir
donc,
en
comme
premier
quoi, effectivement, elle n'est pas
le résultat. Il va le falsifier et l'envoyer au juge. Et Morgane, en fait, il se crée une demi-sœur.
À quoi ça tient?
Et là... va commencer évidemment tout le dilemme du livre, c'est-à-dire que comme Pygmalion qui tombe amoureux de sa sculpture, de sa création, lui tombe amoureux de cette sœur qu'il a artificielle qu'il s'est créée et qui est tellement heureuse justement d'échapper à la malédiction des gènes du monstre que tout à coup cette fille qui est recroquevillée comme une petite vieille sur cette douleur,
jolie, en tout cas,
devient,
début,
elle
s'épanouit.
Et puis elle veut tout connaître de Jacques, de ce nouveau père, tout. Donc son regard nouveau va être une chose extraordinaire pour l'esprit de Jacques qui assiste à ça et qui non seulement se nourrit des émotions humaines, mais va vibrer à la fois des joies et de la détresse et de la peur que tout cela tourne court et se retourne contre Morgane.
Alors tout cela, vous le saurez en lisant La vie absolue, mais Didier Van Kovelaert, je vais reprendre plusieurs thèmes du livre, ce que vous disiez effectivement sur Morgane va demander des informations sur comment était ce père, comment il était dans son enfance, etc. Et du coup, effectivement, ce fils qui avait des relations, on va dire comme ça, avec son père et qui ne se rendait peut-être pas compte, qui n'avait peut-être pas de bons souvenirs de son enfance, etc. Au fur et à mesure qu'il va les raconter, qu'il va raconter quel père il était, il va se rendre compte de ce qu'il a
des
perdu.
Liens. Vous savez, je suis on sent ça de livre en livre, combien c'est un thème qui m'importe et me fascine. C'est comment les mensonges d'amour, d'empathie, ou le mensonge thérapeutique peut arriver à un stade de vérité humaine et créer une vérité, une nouvelle harmonie, quelque chose qui... Et là... Ce gamin ce trentenaire qui avait eu en tant qu'enfant précoce, des relations assez distendues avec cet adulte attardé qui essayait de le faire jouer au train électrique, qui lui construisait des réseaux extraordinaires, alors que lui, tout ce qui l'intéressait, c'était ses ordinateurs, ses jeux vidéo et tout. Et sa mère lui disait, écoute, sois gentil, va jouer avec ton père, quoi, fais. Et là, Lucien va se réinventer un père pour le donner à Morgane et magnifier. Et ses faux souvenirs qu'il invente vont faire un bien fou à Jacques. C'est pas simplement lui donner un surcroît de vie, c'est le recréer lui aussi.
Alors parlons de notre ami Jacques, qui est donc mort, qui revient et qui est une âme en peine. Enfin, à un moment donné, c'est ce qu'il dit, c'est ça, les âmes en peine. Être oublié des vivants ne les dissout pas, mais les incruste.
Oui, là, il ne parle pas de lui, il parle justement
des autres...
de cette... Parce que, vous savez, dans l'au-delà, bah, il y a les mêmes que sur Terre, en vie. Vous avez des gens qui sont des bons communicants, qui sont en paix, d'autres qui sont en interrogation, et d'autres qui restent
Parce qu'il y a plusieurs étapes aussi.
Oui,
hein.
Et puis ceux d'abord qui refusent la mort ou qui n'ont même pas conscience qu'ils sont morts. C'est ça, vraiment, les âmes en peine qui sont... Et là, il y a notamment les enfants de la pâtissière, les deux qui sont morts, l'un d'une overdose et l'autre d'une sirozo kirsch, là, de ses créations chocolatières.
Voilà.
Et eux, ils sont tenus par la haine contre leur mère, qui est toujours là, et le fait de ne pas vouloir se détacher des vibrations terrestres et de ne pas avoir conscience de la mort. Et ça, Jacques, qui lui était allé très très loin, il a oublié, c'est ça qui est intéressant dans ce narrateur, c'est que c'est pas du tout un mort omniscient avec des pouvoirs, non, au début...
C'est un mort normal.
Il doit, en fait, oui, c'est-à-dire qu'on le ramène un peu dans ses vibrations terrestres et peu à peu, ses souvenirs se reforment, les visages autour de lui prennent corps, il retrouve les noms et les perceptions s'affinent, mais en même temps, il perd un peu cette mémoire de l'au-delà des différents stades où il était arrivé. Mmh. Et là encore, c'est le romancier, l'ancien gendarme qui avait écrit sur lui, qui tout à coup va reprendre le personnage de Jacques en essayant d'imaginer ce que ça lui fait comme sensation, comme émotion, tout en se trompant totalement. Mais Jacques se retrouve quand même prisonnier de tout ce travail d'imagination que fait ce romancier, au point qu'il ne sait plus si quand Guillaume, le romancier, lui fait écrire sur l'au-delà, est-ce que c'est les informations qu'il reçoit, c'est de l'écriture automatique, ou alors c'est son imaginaire qui se met à être contagieux pour Jacques et qui parle des deux, en fait.
Alors, ce que dit effectivement Jacques à un moment donné, ce que vous dites dans le livre, Didier Van Kovelaert, si ça se trouve, la mort comme la vie, c'est jamais que du cinéma, on est dans le film et un jour on se retrouve dans la salle à regarder l'écran. L'écrivain a été aussi réalisateur, Didier Van Kovelaert, vous avez réalisé des films, on a adapté certains de vos films, notamment à Hollywood. Ce rapport-là, j'ai trouvé ça très, très drôle et très vrai finalement, ce rapport entre la mort, la vie et le cinéma, on est dans le film, là, on est dans un film, on fait une émission de radio, et puis à 120 ans, c'est ce qu'on dit, c'est nous, on regardera l'écran.
Oui, il y a des tas d'hypothèses formulées. Là, c'est un vivant qui formule cette hypothèse-là. C'est pas un livre qui donne une vision définitive de ce qu'est la mort, la conscience, la survie de la conscience. Tout cela est nourri d'hypothèses. Et puis Jacques lui-même est tellement soumis à la contagion des émotions, des doutes, de l'incroyance ou de la foi de ceux qui pensent à lui, que tout ça crée évidemment des questionnements sans cesse. Mais je crois profondément que, comme la vie, la mort continue d'être une source de questionnements et d'évolution. Sinon, quel intérêt? Si tout à coup on avait... je pense qu'il y a des âmes très très élevées qui tout de suite passent de l'autre côté et arrivent très haut. Mais tel que c'est décrit par Jacques, il y a différents niveaux. Hein. Et puis il y a quand même, quand tout à coup le romancier se pose la question, et Dieu? Et lui, ce qu'il retient de Dieu, c'est bon, Dieu, c'est le dernier étage, c'est le toit terrasse. Est-ce qu'il est inoccupé, en colocation, privatif, tout ce qu'il sait, c'est qu'il n'y a pas d'ascenseur direct.
Je ne sais pas, Didier Van Kovelaert, j'imagine que, je ne sais pas si vous êtes beaucoup renseigné sur les religions, etc.
Oui,
mais il y a beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'aspects dans ce que vous dites par rapport à l'âme qui sont très proches des croyances du judaïsme.
Bien sûr.
Ou quand quelqu'un décède, il faut rester avec lui, faire des prières en permanence pour accompagner son âme, justement, et pour accompagner la montée de son âme. Vous êtes renseigné, j'imagine, sur le christianisme et sur le judaïsme et sur l'islam.
Oui, il y a évidemment, et c'est ça qui est intéressant, s'il y a des points communs très forts, il y a quelques différences techniques sur la manière de procéder qui sont intéressantes, mais l'important, c'est que tout ça, c'est un courant d'amour qui accompagne et qui, surtout, doit s'abstenir de vouloir retenir. Et là, on le sent à travers les ressentis de Jacques. Ce qu'il y a de terrible, c'est la détresse, c'est la solitude des vivants qui, tout à coup, disent il n'y a pas de contact possible. Or, lui, il essaie désespérément de nouer ce contact avec sa femme. Et à un moment donné, la femme reçoit un message, sauf que ça ne vient pas de lui. Ça vient de son coiffeur qui se prend pour un médium depuis qu'il est allé passer les fêtes de Noël dans une tribu d'Amazonie. Et il est revenu, il entend des voix. Et en fait, toutes les clientes de son salon de coiffure, salon de haute coiffure, reçoivent des nouvelles de leur défunt. Et, sauf Jacques, jusqu'à présent, un quincaillier, il ne voyait pas trop l'intérêt. Et puis, un jour, il lui donne un message, sauf qu'on va se rendre compte des raisons pour lesquelles ce message est un faux, mais bien informé, et qui va complètement perturber la veuve de Jacques et son fils, parce que c'est un message qui les met en garde contre Fabienne, et on découvrira quelle est l'origine
finalement le
terrestre
message.
De ce message.
Mais ce que vous dites, effectivement, il y a tout un passage où Jacques explique l'ascension, et il dit que quand il arrive comme ça, il y a le ciel qui est une construction à plusieurs niveaux, au rez-de-chaussée il y a le vestiaire, c'est là que tu revois ta vie passée de ton point de vue d'abord, puis sous l'angle des êtres que tu as aimés, blessés, cassés. Il n'y a pas de jugement extérieur, juste une prise de conscience de ce qu'il te faudra réparer. Et là, effectivement, ce mot de réparer, c'est profondément juif aussi, lié au judaïsme. C'est ce qu'on appelle le tikkun olam, réparer le monde par des bonnes actions sur Terre et puis ensuite ailleurs. Mais c'est ce vestiaire que vous décrivez qui doit être d'abord finalement la prise de conscience de ce qu'on a fait de bien et de ce qu'on n'a pas fait de bien.
Voilà, c'est-à-dire d'abord renouer avec soi-même sans... toutes les histoires qu'on se raconte pour enjoliver ou pour noircir sa personnalité, son rapport aux autres, son rapport au monde. Donc, clarifier tout ça, ne plus se mentir, et puis avoir la perception de l'autre par rapport à vous-même et revivre ce que vous avez fait de bien ou de mal aux autres à travers leur ressenti à eux, y compris parfois dans des choses totalement insignifiantes, qui n'en ont laissé aucun souvenir, dont vous n'avez pas eu conscience, et qui font parfois des ravages supérieurs à des actes de vengeance ou des actes de malveillance ponctuelle. Et ça, ce discernement-là, dans toutes les religions, c'est vraiment la clé, c'est vraiment le discernement. Et il n'y a rien de plus difficile que cela. Arrêter de se mentir sur soi ou sur les autres, et puis arriver à voir ce qu'il y a de bien derrière les actes négatifs et inversement.
Vous parlez beaucoup de mensonges, Didier Van Kovelaar, depuis le début de l'interview, et évidemment beaucoup dans le livre. Vous avez beaucoup menti, vous, ou on vous a beaucoup menti? Mais ce n'est que des mensonges d'amour dans le livre. Donc
Je pense que j'ai plus menti qu'on ne m'a menti, mais oui, ce type de mensonges, c'est-à-dire l'exactitude des faits est parfois une chose terriblement toxique qui va... Et là... Je me rappelle une formule de Monterland dans Les Jeunes Filles qui m'avait vraiment marqué. Vous lisez, les gens qui se vantent de toujours dire la vérité me font penser à des adultes qui se vanteraient d'être incontinent. C'est-à-dire, non, c'est pas que toute vérité est bonne à dire, tout ça, mais on peut pas dire la vérité à tout le monde pour les mêmes raisons, au même moment. Il y a une manière de se dédouaner, de dire, de prendre la brutalité de la vérité. Bon, évidemment, dans le domaine médical, c'est là où c'est le plus flagrant. Ne dit pas, sans savoir qui est la personne, son ressenti, son rapport à la mort, à son entourage, on ne dit pas à quelqu'un « vous êtes foutu ». Surtout quand on sait combien on peut se tromper, les erreurs médicales, combien l'auto-guérison, vous avez des gens qui peuvent être tués par une nouvelle qu'on leur apporte. Et lorsque parfois il y a des erreurs d'analyse, comme ça arrive hélas, on se rend compte combien la parole peut détruire ou peut donner des ailes. Donc, ce qui compte, c'est que lorsqu'il y a, on sent un devoir de mensonge, du moins un devoir de réarranger la réalité pour sauver quelqu'un, pour lui faire du bien, pour créer une autre existence, et opérer un nettoyage par rapport au côté insupportable d'une vérité. Ce qui compte, c'est le but, c'est l'objectif. Si on réussit à améliorer le destin, la santé affective, mentale et de quelqu'un, oui, on est pardonné.
On est largement pardonné. On va marquer une pause musicale, Didier Van Kovelaar, et on se retrouve juste après. On continue à parler de votre dernier roman, La vie absolue, c'est aux éditions Albin Michel. Voilà, la petite pause musicale, et ce sera, qui était vraiment très très courte, hein. Théo, c'est sa deuxième réalisation tout seul, ça va être le gage après Théo. C'était la, oui, c'était les 20 secondes de silence. Mais tout va bien. Si on retrouve la pause musicale, on la mettra juste après. On est ce matin avec Didier Van Kovelaert. On parle de la vie absolue aux éditions Albin Michel. Alors, ces personnages, on a beaucoup parlé de Jacques. On peut mettre la pause ? Alors, on va mettre la pause. Et bah, comme ça, ça vous fait un suspense supplémentaire pour parler de Jacques. Et puis, l'écrivain, flic qui est devenu écrivain. Qui, c'est quand même un personnage assez dingue. On va en parler dans un instant.
Pas eu le temps de regarder passer ma vie, ni de bien comprendre où mes 20 ans sont partis. Pas eu le temps de dire au revoir à un ami, pas eu le temps. Pas eu le temps de bien préparer mes bagages, pour être prêt à regarder sur mon visage toutes les marques que le temps laisse à son passage. Pas eu le temps. Il est trop lâche, il va trop vite, le temps passe et me précipite vers un homme que je ne suis pas prêt à reconnaître déjà. Il est trop lâche, il va trop vite, le temps passe et me précipite vers un homme dont je ne veux pas dire que lui, c'est peut-être moi. Pas eu le temps d'avoir su apprendre à aimer, me souvenir de toutes les peaux que j'ai touchées, ni de savoir s'il y a des cœurs que j'ai brisés. Pas eu le temps. Pas eu le temps de faire le tour de mon quartier. C'était toujours plus loin que je voulais aller. Pas eu le temps de voir ce que j'ai pu rater. Pas eu le temps. Il est trop lâche, il va trop vite, le temps passe et me précipite vers un homme que je ne suis pas prêt à reconnaître déjà. Il est trop lâche, il va trop vite, le temps passe et me précipite vers un homme dont je ne veux pas dire que lui, c'est peut-être moi. Que regretter ce qu'on aurait dû faire. Moi je referais tout si c'était à refaire. Oui tout si c'était à refaire. Il te donne et il te reprend chaque seconde de son temps. Pour pouvoir vivre une minute, il faudra rendre celle d'avant. Il te donne et il te reprend chaque seconde de son temps. Pour pouvoir vivre une minute, il faudra rendre celle d'avant. Mais le temps passe. Et plus je l'aime, ce temps qui joue et qui m'emmène jour après jour dans une danse où chaque pas est une chance. Mais plus il passe et plus je l'aime, ce temps qui joue et qui m'entraîne vers celui que je voulais être avec ses rêves plein la tête. Il est trop lâche, il va trop vite, le temps passé me précipite vers un homme que je ne suis pas prêt à reconnaître déjà. Il te donne et il te reprend chaque seconde de son temps. Pour pouvoir vivre une minute, il faut.
Patrick Bruel, Patrick qui a ouvert les locations pour sa prochaine tournée en 2024. Eh ben, je ne veux pas vous affoler, mais c'est déjà parti très 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 bien. Oui, Didier.
Patrick avec qui j'ai fait mon service militaire.
Mais je sais, on en avait parlé.
Et à qui j'ai, enfin, que j'ai présenté à Georges Lautner et Alain Poiré, le patron de la Gaumont, pour La Maison Assassinée, que j'avais écrit pour Lautner et qui a eu le rôle.
Attendez, je replace tout. C'est vous qui avez écrit La Maison Assassinée ?
Oui.
Oh,
c'était mon premier scénario, oui.
Mais je
d'après le livre de Pierre Magnan.
Mais quel génie que ce film qui repasse pas assez souvent, ouais. Et qui est un des très 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 grands rôles de Patrick.
Et bah, c'était son premier grand rôle. Il avait juste fait l'apparition dans un film d'Arcadie.
Ouais.
Et Et voilà, et j'ai présenté mon copain de régiment qui jouait au théâtre en ce moment-là, qui avait fait la chanson « Marre de cette nana ».
Ouais.
Et puis, bon, il était très bon, mais j'oublierai jamais la réaction d'Alain Poiré, l'immense patron de la Gaumont, monsieur un petit peu, un très grand artisan de comédie qui savait réunir les talents, qui avait fait ce premier film à Francis Weber, à Jean-Louis Labadie. Et quand je lui dis, donc, pour que ce garçon qui revient de la guerre, sur lequel on avait passé des auditions des très grands acteurs, mais Poiré n'était pas satisfait, il n'y croyait pas. Et je lui dis, Patrick Bruel, il me dit, celui qui a enregistré Marre de cette nana, oui, et qui revient de la guerre dans une petite ville où il y a tous les secrets qui vont être déterrés, vous y croyez? Je lui dis, faites un essai, on fait un essai. Il a fait un essai.
Et boum, et voilà. Et ben, évidemment. Et vraiment très grand film. Vous voyez, je peux vous recevoir pour la 20e fois, Didier Van Kovelaar, j'apprends
encore
des choses.
Et évidemment, cette très belle chanson qu'on a entendue a des résonances avec, avec La Vie Absolue. Donc,
oui.
Merci de ce choix.
Mais je vous en prie, c'était Théo qui l'a choisi. J'avais dit un Bruel, il a choisi la bonne chanson. Alors, ce personnage, on va parler un peu de Jack. Je voulais qu'on parle effectivement de cet écrivain qui était gendarme et qui est devenu écrivain. Où vous l'avez trouvé, celui-là, Didier Van Kovelaar? Parce qu'il est très, il est très drôle et en même temps, il y a des petits aspects qui doivent être les mêmes chez certains écrivains ou les rapports avec sa maison d'édition.
Oui, si vous voulez, il est en fait dans La Vie Interdite, c'est le jeune gendarme qui faisait son service militaire dans la gendarmerie et qui découvre le corps de Jacques dans sa caravane de peintre amateur qui lui sert d'atelier, où il est passé sa dernière nuit avec sa maîtresse. Et c'est le premier cadavre qu'il voit. Première réaction, il gerbe dessus.
Voilà, il est complètement...
Et donc, il se sent un peu coupable. Et après, bon, on voit tout de suite que c'est une mort naturelle, une rupture d'anévrisme. En revanche, il s'est créé un lien avec ce type. Et puis, il sent qu'il y a quand même un petit secret derrière. Il voit le portrait inachevé de Naila, cette jeune femme avec qui il a passé sa dernière nuit.
Oui.
Et il va enquêter là-dessus. En fait, ça va lui fournir la matière d'un roman qui va être un très grand succès sur l'apparente insignifiance de la vie de ce provincial, avec tout ce qu'il y a caché derrière. Sauf qu'après, le roman suivant ne marche pas. Le troisième est refusé par l'éditrice. Et puis, du coup, il devient critique. Ça ne remplace pas, mais ça console, du moins ça compense.
Pour les critiques.
Et là, tout à coup, non, je veux dire, il y a des critiques formidables, mais il y a aussi... Sauf que là, il est très méchant comme critique, mais justement, ça déclenche des réactions et un regard sur lui-même qui ajoute la détestation de soi au sentiment d'échec. Et là, tout à coup, il va redémarrer avec ce qui arrive à Jacques, le fait d'être exhumé, et il va s'emparer
de tout cela.
Il a à nouveau son matériau littéraire et il va renouer avec le personnage de ses premiers succès. Sauf que pour Jacques, ça va être l'enfer. Première fois qu'il découvre cette notion d'enfer depuis qu'il est mort. C'est-à-dire que ce que lui fait vivre par écrit ce romancier qui se trompe sur tout, qui n'a rien compris de la situation,
qui en plus
Morgane
était devenu l'amant de sa femme.
Est une intrigante. Voilà, en plus. Donc voilà, Guillaume, c'est cette détente. Attention provisoire, heureusement, mais intermittente dans les fantasmes, l'obsession imaginaire de l'écrivain, était quelque chose qui était très intéressante et un peu stressante à écrire de ma part, parce que le pouvoir de celui qui écrit sur un mort et donc qui le retient, qui le fait vivre et qui le dénature.
Plus compliqué. J'imagine bien. À un moment donné, dans le livre, vous écrivez, Didier Van Kovelaar, la mort, c'est la vie absolue. Ça pourrait être la vie éternelle aussi. La vie absolue, c'est le titre du livre. Et à un moment donné, un de vos personnages dit : moi, ce que je pense, c'est qu'il n'y a ni paradis ni enfer. Il y a toi, c'est tout. Mais tu n'es pas seulement ce que tu as été ou ce que tu as fait. Tu es aussi ce que tu aurais voulu être, ce que tu n'as pas réussi à faire, ce qui te blesse ou qui te fait peur, tes croyances et tes refus. Est-ce que les vivants gardent de toi ?
Et l'interlocuteur répond, ça fait du monde. Oui, et oui, on n'est pas une seule personnalité. C'est la jeune Morgane qui a ce ressenti-là et qui est assez proche du mien. Évidemment, il y a un accroissement de la conscience une fois qu'on a quitté son corps, parce qu'on n'a plus que sa pensée unique. Et on est... on est une âme qui est une structure d'accueil des sentiments, des prières, des douleurs, des espoirs des autres. Et puis, on accède à d'autres dimensions, à d'autres... Bon, il y a toute une part de mystère. Je ne prétends pas être un explorateur de l'au-delà qui revient et qui vous raconte.
Bah, non, j'espère bien,
mais
restez là.
C'est mon imaginaire, mon intuition, mes envies et mes quelques peurs peut-être qui s'expriment à travers tout cela.
Vos envies, parce que ça vous dirait bien, entre guillemets, si à 120 ans, je le répète, ça ressemblerait à ça, l'au-delà ?
Je pense profondément que ça ressemble à ça, tout en précisant aussitôt que c'est un menu à la carte, il n'y a rien d'imposé. Mais on ne choisit pas. Pour le plaisir, on choisit ce qui est nécessaire à notre évolution, y compris bon, ceux qui choisissent à un moment donné de se retirer, de se reposer, quoique l'expression « ici repose dans les cimetières » me paraît vraiment pas très justifiée, mais il y a besoin parfois de prendre du recul, il y a parfois besoin d'expérimenter quelque chose de tout nouveau, d'avoir des missions d'accueil dans l'au-delà, de nettoyage, et aussi l'option de la réincarnation, qui n'est pas pour moi, là encore, quelque chose de si fréquent que ça, mais qui parfois peut être nécessaire. Et voilà, ce qui est important dans ce livre, c'est ce que ressentent les lecteurs, c'est en tout cas ce qu'ils disent aimer, c'est cette réflexion sur la mort et surtout sur la vie, débarrassée de la peur de la mort. En fait, il ressort de ce roman que les vivants ont tort d'avoir peur de la mort. En revanche, les morts ont raison de redouter parfois les vivants par leur pouvoir d'attraction, de nuisance ou de contagion de leurs émotions.
Alors qu'ils sont enfin tranquilles et qu'ils n'ont plus de peur.
Oui, mais après, bah, évidemment, la peur des vivants ne vous laisse pas indifférent et leur amour encore moins, bien sûr, et leur espoir, tous les espoirs qu'ils mettent en vous et la manière dont ils vous régénèrent aussi. Mmh. On a toujours besoin d'être régénéré, même à titre posthume.
Alors, il y a les femmes de la vie de Jacques, il y a Fabienne, qui est sa femme officielle, et il y a Naïla qui était sa maîtresse. Et Naïla, je voulais revenir sur un passage, quand finalement elles sont devenues copines hein, avec Fabienne, après elles vont...
Ah oui, Jacques a été la passerelle, ce sont les deux femmes et qui ont eu cette intelligence. Moi, ce que j'admire, et ça je l'ai vécu plusieurs fois, l'intelligence affective des femmes qui est juste, qui au-delà de ce qui pourrait être rivalité, jalousie, colère, mettent en commun, comme des pièces de puzzle, les différents aspects de l'homme qu'elles ont aimé, mais qui était différent avec
ah bah forcément.
Et puis par rapport
ou alors s'il est pareil avec sa femme et sa maîtresse, c'est qu'il n'y a aucun intérêt.
Il duplique. Mais évidemment, face aux calomnies, aux médisances, aux délations de la petite ville, elles ont fait front commun. Il y a quelque chose de très provoque et de très jubilatoire chez ces deux femmes qui se sont reconstruites dans leur relation.
Alors, Naïla, dans une conversation avec Fabienne, dit également « Je suis libre croyante, comme Jacques était libre penseur. Je la comprends, dit Fabienne, mais je la plains quand en 2012, un kamikaze de 15 ans s'est fait sauter devant l'école juive de la colline de Tresserve. Elle a quitté son agence de voyage pour devenir bénévole au centre de déradicalisation du boulevard Le Pic, la Daéchetterie, comme disent les Aixois. Depuis, l'une des missions qui m'incombe dans l'au-delà est le traitement des rejets toxiques, notamment ces djihadistes qui se massacre en public dans l'espoir d'être accueilli au paradis par 72 vierges.
Et juste, dites la phrase d'après parce que c'est intéressant.
Ah oui, bah, vous avez raison. À la place, il y a moi. Je leur explique, je les aide à assumer leur remords, leur colère de s'être fait avoir au service de rien, juste la folie destructrice des hommes.
Voilà. Alors ça, là encore, c'est la vision qu'a Naïla de cet homme qu'elle a aimé, de son rôle dans l'au-delà. Et Jacques lui-même se dit, bon... Est-ce que cette vision si précise n'a pas débouché sur une réalité ? Mais là, il ne sait pas exactement, il ne sait plus tout à fait ce qu'il faisait de l'autre côté, maintenant qu'il est réattaché aux vibrations terrestres. Mais c'est peut-être vraiment ce qu'il faisait. Et je crois que ça fait partie voilà, des missions aussi qu'on a de l'autre côté. Tout ce qui est hypothèse, tâtonnement sur ce qui nous attend de l'autre côté et sur les rapports nouveaux que l'on va créer avec le monde physique, pour moi, c'est un enrichissement de, même au-delà de la foi, au-delà du cheminement religieux ou spirituel. C'est de l'humanité pure, quoi. C'est dire qu'est-ce qu'on fait de nos émotions une fois qu'on n'a plus notre corps pour les exprimer.
Alors, Didier Van Kovelaar, dans La vie absolue, on pourrait parler longuement de chacun des personnages parce qu'ils sont tous extrêmement attachants et chacun a aussi a un univers différent. Morgane, c'est vrai, quand on la découvre, elle a un univers, on va dire, très jeune, gauchiste, gilet jaune, avec une chanson assez formidable, hein, Gilles et Johan, ou Gilet jaune.
Oui,
enfin, bon,
ils
voilà.
Se sont créés voilà. Un couple
ils
de chanteurs.
Ils se sont créés un hymne sur les ronds-points. Et voilà, il y a plein de choses aussi, évidemment.
Elle n'est pas, je sais pas, gauchiste, c'est une étudiante sensible à toutes les détresses, les injustices. Il n'y a pas d'appareillage politique derrière.
Non, c'est vrai, vous avez raison.
On est, et puis, elle a une passion dans la vie. Elle est étudiante en biologie. Et
sa
passion s'appelle un blob.
On n'a pas parlé de ce personnage-là.
Alors, le blob, le nom savant, c'est Physarum polycéphalum. C'est cette créature extraordinaire qui n'est ni un végétal, ni un animal, ni un champignon, alors qu'il se reproduit par spore comme un champignon. Qu'il a toutes les propriétés d'un végétal, sauf qu'il n'a pas de chlorophylle, et il se déplace pour. Il chasse comme un animal. Oui. Et il se déplace des deux côtés. C'est-à-dire, c'est comme une espèce de moisissure, de filament qui. Et qui est capable de résoudre un labyrinthe. Donc l'intelligence de
cette forme d'animal.
Et le blob est très vraisemblablement ce qui existait il y a 500 millions d'années, avant qu'il y ait la division entre les différents règnes. Et donc cette espèce de... Et
elle est fascinée. On vient du blob, essayez de nous dire, Didier Van Kovelaar.
Oui, ça ne veut pas dire qu'on va y retourner.
Mais c'est déprimant, votre truc.
Non. Pourquoi ? Comme on sait aujourd'hui qu'on vient de la bactérie initiale, oui. La beauté, elle est intérieure. Hein. Et puis, il a cette, quand même cette chose que nous avons perdue, nous, êtres humains, c'est la faculté de régénération. C'est-à-dire, vous pouvez faire une bouture de blob, vous en coupez un bout et vous le mettez dans un autre
endroit
où il va se régénérer et il aura sa mémoire intact.
Ah bah
c'est-à-dire
ça,
qu'il va retrouver un autre dans un labyrinthe, il va retrouver le même chemin. Des expériences formidables ont été faites là-dessus. En plus, ce que je dis n'est pas inventé dans le roman.
Mais
sur
non,
les perspectives du blob, c'est-à-dire que sur la recherche en cancérologie, cet être si bizarre est un espoir formidable. Voilà, il y a des pistes de recherche extraordinaires pour la manière de non seulement de prévenir, mais de réparer la progression d'un cancer, de rendre consciente les métastases, que c'est pas d'un accroissement heureux, mais au contraire quelque chose qui met en péril la structure globale. Donc
ce blob, effectivement, vous verrez dans le livre, vous verrez, il a aussi quelques aventures. Il nous reste plus que 2 minutes, Didier Van Kovelaar, donc je vais pas vous lancer sur le début du dernier chapitre du livre, mais pourtant, où finit une vie, où recommence-t-elle ? Eh bien, vous le saurez en lisant La vie absolue. Vous étiez content de retrouver Jacques après 25 ans ?
Oui, Marvin, il m'a jamais vraiment quitté, en fait. Ouais. Déjà, les lectrices et les lecteurs me demandaient vraiment qu'est-ce qu'il devenait dans les nouvelles de Jacques. Moi, j'en avais pas forcément. Et quand j'en avais, parce que le personnage continue à me parler, c'est pas parce que le livre est publié, au contraire, la lecture des gens et ce qu'ils m'expriment redonne un surcroît d'existence au personnage. Mais je ne savais pas comment le faire revenir, pour quelle raison. Et un jour m'est venue l'idée de l'exhumation et là, je suis parti dans l'écriture.
Et là, vous êtes parti. Et vous avez drôlement bien fait.
J'étais vraiment content de le retrouver.
Et bien nous aussi. Et vous avez drôlement bien fait. Très jolie couverture. C'est le Didier Van Kovelaar. Ça va être un carton, comme d'habitude. Vous avez déjà le prochain en tête, Didier ?
Oui.
Il est même en
grande partie sur le papier déjà. Oui.
Bon, très bien. Donc ça veut dire qu'on se revoit bientôt.
Avec plaisir.
Didier Van Kovelaar, La vie absolue. C'est aux éditions Albin Michel. Et c'est à lire absolument. Merci Didier. À très bientôt.